Bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne de Graphite. Tous les samedis, vous avez une chance extraordinaire. Premièrement, vous avez la chance d'écouter une émission d'actualité scientifique qui s'appelle Biotine. Deuxième chance, c'est que cette émission est animée par moi, humble serviteur Jean-Noël, mais accompagnée par Carole aujourd'hui. Bonjour Carole.
Bonjour Jean-Noël, bonjour à tous.
L'actualité scientifique n'arrête pas même en ce début du mois de novembre.
Mais bien sûr, ça s'arrête jamais.
Ça ne s'arrête jamais.
On ne sait même plus comment choisir les informations qu'on a envie de relayer dans l'émission.
Écoute, j'ai tellement d'informations que je n'arrive même pas à faire un tri. Tiens, soyons fous, on ne va pas commencer par l'éphéméride. Mais j'ai tombé sur cette petite brève de Science et Avenir qui explique que les lunettes... Alors, tu en as peut-être, toi, des lunettes anti-lumière bleue.
Alors non, je n'en ai pas, mais il faudrait que j'en aie. Il paraît qu'il faut que c'est important.
Non, parce que cet article... Cet article dit que ça ne sert à rien.
C'est vrai.
Elles sont souvent proposées chez les opticiens. Eh bien, les verres traités pour filmer la lumière bleue émise par les écrans ne serviraient à rien. Selon la plus large étude menée à ce sujet, cette étude a été publiée dans la revue de référence Cochrane. Cette analyse a passé au crible 17 essais cliniques réalisés dans 6 pays différents. Une seule étude montrait clairement qu'il n'y avait qu'un effet très léger, voire pas d'effet du tout. C'est ce que note docteur Laura Donnelly de l'université de Melbourne en Australie, et elle a dirigé ses travaux. Et à dire vrai, la nocivité présumée de la lumière bleue émise par les écrans, que ce soit la télévision, le smartphone, les ordinateurs, et donc cette lumière bleue émise par les écrans, bien la nocivité pour les yeux et la qualité du sommeil peine à être démontrée. Cette association reste controversée. Aucun mécanisme biologique clair par lequel la lumière bleue pourrait causer directement une fatigue oculaire n'a été identifié, précise la chercheuse. Les lunettes anti-lumière bleue ne servent à rien pour elle.
Mais c'est intéressant parce qu'en fait, c'est finalement comme pas mal de choses où on va découvrir un certain temps après qu'en fait, c'était des arguments commerciaux, marketing, etc. Non, parce que justement, moi j'entendais tout le temps dire il faut le faire, vraiment.
Moi j'en ai.
Quand on travaille beaucoup devant l'ordinateur, mais est-ce que toi t'as l'impression à titre personnel que du jour où t'en as eu, ça a eu un effet positif?
Pas du tout.
D'accord. J'ai peut-être juste gagné du temps et de l'argent, ne pas le faire.
Je pense que t'as gagné peut-être les deux, j'en sais rien, je ne prononce pas. Nous sommes donc bien le 4 novembre. En 1939, c'est la présentation de la première voiture à air conditionné par la firme Packard. Alors déjà, Packard faisait des voitures, ok.
Donc ça, je ne savais pas.
Non plus. Et des voitures à air conditionné, ça date de 1939 quand même.
C'est important.
4 novembre. On avait la Deuxième Guerre mondiale qui est déclarée début septembre. Et 2 mois après, on était très contents parce qu'on a des voitures à air conditionné. Naissance le 4 novembre 1765 de Pierre-Simon Girard. C'est un ingénieur et un physicien français. Il collabore notamment à la réalisation du dictionnaire des ponts et chaussées, qui est donc un livre de chevet de beaucoup de personnes, je pense.
J'imagine, oui.
Voilà, Pierre Girard est né le 4 novembre 1765, quand je suis à ressortir des gens qui ont finalement contribué, enfin de façon un peu modeste, et que je n'ai pas trouvé grand-chose.
Pour un
4 novembre. Par contre, un décès en 2006 de Guy Ourisson. Il est décédé en 2006 à Strasbourg, chimiste et professeur d'université. C'est à l'université de Strasbourg d'ailleurs qu'il fait carrière, d'abord comme maître de conférence dans les années 50. Il est ensuite professeur, directeur de l'Institut de chimie. Et de 1971 à 76, il est le premier président de l'université de Strasbourg 1. En 81, il est élu membre de l'Académie des sciences et il est président de l'Académie des sciences en 1999. Guy Ourisson, quand j'ai donc cherché un petit peu l'éphéméride, je l'ai connu parce que moi j'ai fait mes études à Strasbourg et il était donc président en 99, il était président pendant que j'étais étudiant et donc c'est pour ça quand j'ai vu Guy Ourisson, ok, je vais quand même noter, donc je n'avais pas noté qu'il était décédé en 2006, je n'avais pas trop suivi sa carrière, mais ce qui était intéressant, c'est que à la fin de sa vie, nous sommes en 2002, il est l'auteur d'un rapport sur la désaffection des étudiants pour les études scientifiques. Il était très sensibilisé dans ce domaine-là. L'université de Strasbourg proposait à l'époque une formation en communication scientifique dont l'un des objectifs était justement de susciter des vocations pour les filières scientifiques des jeunes. Et des actions comme la Fête de la Science, qui est peut-être la plus emblématique, mais il y a plein d'actions. Et l'université de Strasbourg avait souhaité mettre en place justement une formation qui puisse permettre à comment dire, avoir des professionnels de ce domaine-là. Et j'avais fait cette formation-là. Et Guy Ouisson, je l'ai connu. Donc pour ça, je, voilà, c'est un petit
clin d'œil finalement
personnel, ouais. Qui voilà, pour saluer la mémoire de Guy Ouisson, qui a été donc président de l'Académie des sciences également en 99.
Ben merci
à toi,
pour
Carole, parce que du coup j'ai beaucoup parlé de l'éphéméride et donc de ces lumières, de ces lunettes anti-lumière bleue. À toi, Carole, parce qu'il y a pas mal de choses dans l'actualité à évoquer encore aujourd'hui.
Exactement, et ça fait un moment qu'on n'avait pas parlé en fait d'espace. Donc,
oui, mais il y a plusieurs semaines qu'on ne parle pas d'espace.
Et oui, et donc bah, en plus en hommage à PJ qui nous accompagnait avant et qui t'a accompagné pendant un grand nombre d'émissions et qui adorait justement trouver et traiter de ces sujets-là, et bien là, il y a des nouvelles, il y a des choses à partager avec nos auditeurs, et notamment, mais ça va un petit peu avec des sujets actuels sur justement la pollution, le recyclage, faire attention. Donc là, c'est la pollution spatiale qu'on va évoquer, puisque même dans l'espace, l'homme arrive à polluer, hein, donc c'est intéressant, mais ça on le sait, ça commence à être abordé de plus en plus, et ça inquiète justement de plus en plus les scientifiques qui craignent pour la sécurité des astronautes et le bon déroulé des futures missions. Pour la première fois, une compagnie de télécommunications doit payer une amende pour avoir laissé à l'abandon un de leurs satellites en fin de mission dans une orbite non réservée aux déchets. Donc j'ai aussi appris qu'en fait, il y avait des orbites réservées aux déchets, ce que je ne savais pas. Oui, et c'est dans un article dans Science et Avenir dans lequel on peut retrouver ces informations. Alors on sait, il y a eu plusieurs films hein, comme ça, dans lesquels ont été mis en scène des déchets, ben, on va en parler un petit peu après, notamment Gravity, pour ceux qui l'ont vu.
Bien sûr.
Et on se rend compte que ça peut être assez dangereux, ça n'a pas les mêmes impacts que juste de laisser j'allais dire une bouteille plastique ou une peau de banane sur un trottoir. Là c'est un peu plus grave, même si ben oui, au final c'est important en fait de jeter. Hein. mais donc là, pour la première fois depuis le début de la conquête spatiale avec Sputnik 1 en 1957, une entreprise est contrainte de payer une amende pour pollution de l'espace. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, l'entreprise américaine de télécommunications Dish Network est sanctionnée par la Commission américaine des communications, la FFC, pour avoir abandonné un satellite qui s'appelait donc EchoStar 7 en orbite. Elle doit donc payer 150 000 $. Je ne trouve pas que ce soit si cher, hein, mais car elle représente un danger pour les autres objets orbitaux encore en fonctionnement. Par exemple, la station de l'ISS, donc la Station Spatiale Internationale. Donc c'est pas quand même au hasard, donc il y a quand même des astronautes qui sont dans l'ISS. Hein. Et puis là, on se rend compte, ce serait des conséquences énormes si jamais il y avait un accident. Et donc des règles très, très strictes en fait existent hein, quant à la fin de service des satellites qui sont en vigueur. On ne fait pas n'importe quoi. Par exemple, la loi demande aux compagnies propriétaires de satellites de les propulser dans une orbite cimetière. Donc voilà, en fait, c'est une orbite cimetière qui est située à 300 km de l'orbite originelle lorsqu'ils sont obsolètes afin de ne pas engendrer des collisions avec d'autres engins de la même zone. Pour rappel, l'orbite en question est celle qui contient la majorité des satellites et elle est située à 35 789 mètres d'altitude, c'est précis. Elle permet à ces objets de rester en permanence à la même distance de la planète grâce aux lois de l'attraction universelle ou attraction de deux corps qui ont une masse. La Terre retient les objets présents autour d'elle, ce qui génère des orbites avec des objets géostationnaires qui restent en permanence à la même distance de la Terre. Donc là, on comprend bien qu'ils ont défini une orbite spécifique pour aller... j'allais dire jeter les satellites qui ne fonctionnent plus, dont on n'a plus besoin. La compagnie Dish Network s'est engagée à envoyer son satellite dans une orbite située à 300 km de celle opérationnelle lorsqu'il serait en fin de mission, indique la FFC dans un communiqué. La rupture de cette promesse prise en 2002 par la société a été découverte en fait par la FFC suite à une enquête. C'est-à-dire qu'au départ, voilà, ils construisent puis ils veulent mettre en orbite le satellite, ils doivent s'engager bien évidemment ensuite, lorsqu'il n'est plus fonctionnel, à le mettre dans cette fameuse orbite cimetière. Mais là, il a quand même fallu une enquête pour aller vérifier qu'en fait, et j'imagine qu'il y a des vérifications régulières, que les entreprises font bien ce qu'elles disent à ce niveau-là. Et donc c'est la FFC qui découvre ça. Même si ces lois sont éditées, ceci est une première dans l'application des règles sur les déchets spatiaux et de ce fait, la Commission a intensifié sa politique de gestion des fins de mission satellitaires. Ce durcissement des sanctions et des lois vise à protéger le peu d'espace non pollué et à contraindre les grandes entreprises d'être plus vigilantes quant à la gestion des fins de mission des satellites. Alors, depuis quelques années, l'Agence spatiale européenne, donc l'ESA, dénombre des objets orbitaux de plus en plus nombreux. Ils ont recensé pas moins de 15 880 satellites envoyés en orbite depuis le début de la conquête spatiale, donc toujours en 1957. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on commence à s'inquiéter, c'est parce qu'il y a du monde là-haut et ça commence à être un petit peu encombré. Et justement, sur ces 15 880 satellites, il y en a encore quand même 10 590 qui sont toujours dans l'espace. Ça représente 11 000 tonnes de métal gravitant au-dessus de nos têtes. Ça, c'est selon les dernières données qui ont été récoltées en 2023.
Il y a 10 000 satellites encore ?
10 590, oui. 11 000 tonnes de métal qui sont là au-dessus de nos têtes. Imaginons, si ça devait tomber d'un coup sur la Terre, oui, je pense que ça ferait beaucoup. Le projet Starlink mené par la société SpaceX d'Elon Musk, et puis on reparlera un peu plus tard dans l'émission là, justement d'Elon Musk, compte aujourd'hui plus de 4 600 satellites lancés. Donc c'est pour montrer en fait, avoir un petit peu une échelle, c'est-à-dire que sur ces 10 000 satellites, il y en a quand même quasiment la moitié qui sont en lien avec le projet Starlink, donc qui sont à Elon Musk en fait. Et pour donner un autre exemple, le projet Kuiper d'Amazon dépasse les 3000 satellites. Et ça, ça constitue évidemment un nombre astronomique d'objets orbitaux et ça inquiète de plus en plus la communauté scientifique. Alors j'imagine qu'en fait, là, dans le nombre que je viens de citer, il y en a une partie qui doit déjà avoir été envoyée et une partie qui est en cours.
Je trouve que ça fait beaucoup, en fait.
Oui, mais moi, j'avais déjà entendu en fait, qu'il y en a énormément. Parce qu'en fait, il y a énormément de projets. On en a mis pour mieux recevoir plein de données, plein de choses. Mais après, maintenant, il y a de tout. Il y a des projets dans tous les sens. Et en effet, il y a les mastodontes comme Elon Musk, comme Amazon, qui ont des programmes énormes.
Des satellites qui s'alignent et ainsi de suite.
En fait, ce qui fait qu'il y en a énormément, je pense, c'est aussi à partir du moment où le secteur vraiment privé s'est lancé là-dedans. Puisqu'avant, sinon, à part la NASA, et voilà, enfin, du coup, en Russie, bon, là, on a aussi un petit peu la Chine, mais sinon, voilà, c'était tout. Donc, on peut ajouter, là, par rapport aux deux projets dont j'ai parlé, donc celui d'Elon Musk et celui d'Amazon, que ces deux immenses entreprises, elles ne vont pas s'arrêter là. Elon Musk annonce sur son site le lancement de 30 000 satellites en tout et pour tout. Donc, Hugh Lewis, un professeur d'astrophysique de l'université de Southampton en Grande-Bretagne, quand même, du coup, alerte et dit « Aujourd'hui, le nombre de manœuvres d'évitement croît de manière exponentielle. » Donc, c'est sûr qu'on peut s'inquiéter. Dans le film, et je vous ai donné la référence tout à l'heure, Gravity, qui est sorti en 2013 et qui a été réalisé par Alfonso Cuarón, les protagonistes sont face à ce que les spécialistes nomment le syndrome de Kessler, qui est un exemple de réaction en chaîne. Un débris détruit des satellites, ce qui génère encore plus de débris et donc de casse. En 2023, plus de 640 cas de collision entre débris et satellites ont été notés par l'ESA. C'est énorme. Cela serait une véritable catastrophe si un déchet percutait l'ISS, par exemple. C'est pour lutter contre ce problème, de plus en plus récurrent, qu'une mission de nettoyage, Space Clear One, est programmée pour 2026 afin de désencombrer l'espace autour de la planète. Alors, je ne sais pas comment ils vont faire, je ne sais pas exactement en quoi va consister la mission, mais visiblement, c'était plus que nécessaire. Ouais, là, il faut faire le ménage.
On avait évoqué dans une émission de septembre, je crois, une espèce de robot avec un bras mécanique qui pouvait récupérer des morceaux, des choses comme ça.
Donc, ouais.
Mais je ne pensais pas qu'il y en avait autant, en fait. Je n'avais pas en mémoire qu'il y avait autant de satellites.
Et si, donc... Voilà, la pollution en fait, encore une fois, ça a commencé en 1957, donc à l'échelle de la vie humaine, c'est une toute petite durée.
Et là encore, on a fait des choses sans penser à l'avenir en fait.
Ben, on a dit qu'on y pensait, de manière officielle quand même, à chaque fois les gens... Et puis en fait, au fur et à mesure, il a fallu trouver des solutions, puis il a fallu mettre à des endroits, et puis finalement c'est assez insatisfaisant, je pense. En tout cas, ça peut poser certains dangers. Oui.
Ça peut poser certains dangers, bien évidemment. Donc on va suivre cette affaire de près, évidemment. Mais c'est intéressant de parler d'espace sous cet angle-là, parce qu'on en a très peu parlé dans cette émission de la pollution...
De la pollution spatiale.
Après, je revenais sur ce que tu disais tout à l'heure. S'il y a des satellites qui retombent sur Terre, ils sont quand même carbonisés au niveau du passage de l'atmosphère. Je ne pense pas qu'ils traversent. C'est parce qu'ils ne sont pas si gros que ça.
Bah alors c'est bonne question, mais je pense que c'est quand même dangereux. Enfin, je pense qu'ils restent. Je pense pas qu'ils se désintègrent totalement.
Je sais pas. Écoute, on demandera.
11 000 tonnes de métal.
On faudra qu'on demande. En tout.
Oui, non, bien sûr, en tout. Ça tomberait pas tout d'un coup.
Ouais, mais un satellite qui tombe. Un seul. Je pense qu'il se fait cramer au niveau du passage.
Je sais pas. Je me demande s'il n'y en a pas eu certains qui ne sont pas l'appareil. Désolé auprès de nos auditeurs si jamais on dit des inexactitudes.
C'est de l'improvisation totale.
Il faudrait que je revérifie, mais je me demande si ce n'est pas arrivé une ou deux fois et que heureusement, justement, ils étaient tombés dans les endroits en tout cas où il n'y avait pas de pas d'être humain.
Peut-être, je n'ai pas le souvenir de ça, mais ok. Bah, écoute, on essaiera
on va chercher.
On va chercher l'information. Je vais parler, moi, de Néandertal qui prend enfin sa revanche, parce qu'il était un petit peu décrit comme une espèce de brute stupide, pas très malin, pour survivre à la grande marge de l'évolution. Eh bien, l'hypothèse commune veut que Néandertal aurait en effet été moins capable d'innovation que son cousin Homo sapiens. C'est une idée qui pourrait être totalement fausse. Il y a de plus en plus d'études qui révèlent en effet que Néandertal était capable de procédés techniques complexes nécessitant un développement cognitif égal à celui de l'homme moderne. Il y a deux articles publiés récemment dans la revue Scientific Reports qui montre que nos lointains cousins seraient les inventeurs de l'une des plus anciennes techniques de transformation de matériaux. Néandertal aurait en effet inventé la colle. Alors, c'est une forme bien sûr différente de celle que nous connaissons aujourd'hui, mais tout de même, l'homme de Néandertal aurait mis au point une technique plutôt complexe, permettant d'obtenir une espèce de goudron d'écorce de bouleau. Et cette substance était alors utilisée pour la confection d'outils composites qui nécessitaient l'assemblage de petits morceaux de pierre. Et plus tard, le goudron, il sera utilisé pour imperméabiliser des ustensiles comme des réservoirs ou notamment aussi les bateaux. Alors, le goudron d'écorce de bouleau, il résulte cependant d'un procédé assez complexe. Et il est étonnant d'avoir vu cette technique se développer si tôt au Paléolithique. Il s'agit d'ailleurs de la première production d'un nouveau matériau. Ce goudron, il peut s'obtenir de diverses manières et les scientifiques pensent qu'au fil du temps, Néandertal en a découvert plusieurs. Alors, s'il est impossible de savoir avec certitude quelle a été la toute première méthode utilisée, les chercheurs penchent pour la technique par condensation qui nécessite peu de matériaux différents, une étape de préparation relativement simple. Le résultat est par contre intéressant puisqu'il produit un goudron très résistant. Alors ce procédé, il est le suivant, c'est de l'écorce de bouleau qui est brûlée sur des pierres. Et c'est ensuite la fumée qui, en se condensant sur des surfaces en pierre, va produire ce fameux goudron. Un procédé qui peut paraître simple, mais en fait, il fallait penser que la condensation de la fumée sur des pierres permettait de produire ce goudron. Alors peut-être que ça a été découvert un petit peu par hasard, on n'en sait rien. Mais il fallait y penser, il fallait le mettre à l'œuvre. Et il est d'ailleurs probable que cette technique, dont le rendement est plutôt faible, il est probable que cette technique ait rapidement été améliorée, mais à quel point la production de goudron par Néandertal est-elle significative d'un important développement cognitif? Pour répondre à cette question, les chercheurs ont utilisé une méthode qui est nommée réseau de Petri. Ça permet de mesurer la complexité d'une technique et d'évaluer le degré de développement cognitif associé. Et les résultats révèlent que pour produire leur goudron, les hommes de Néandertal ont dû rassembler de nombreuses informations, de comprendre certains processus abstraits et être capable de raisonnement causal, mais également de pouvoir transmettre ce savoir, un ensemble de connaissances et de capacités intellectuelles qui demandent de nombreuses aptitudes cognitives et donc qui étaient jusqu'à présent uniquement attribué à l'homme moderne, Homo sapiens, il est également probable que ce genre de technique ait demandé une organisation plus forte au sein du groupe et surtout une communication plus poussée entre les individus. C'est une vraie découverte assez intéressante par le biais justement du fait que le titre dit « Néandertal a inventé la colle », mais la deuxième partie du titre est intéressante. Cela en dit long sur son intelligence et effectivement, on découvre maintenant des nouvelles choses sur l'homme de Néandertal et son image est peut-être valorisée.
Mais
désormais.
Oui, mais je crois que Néandertal a beaucoup de choses en fait à apprendre. Enfin, moi, j'arrête pas de voir des reportages, des documentaires justement là-dessus à plein de niveaux. Donc, c'est hyper intéressant.
Eh bien, écoute, je suis très content.
Merci pour ce partage.
Merci pour ce moment, comme disait l'autre. On se fait une petite pause musicale sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.
turn and you end up cooking. A vindaloo, a vindaloo. I'm at your door and I can help no kill. I need your stew to pull me through. I am charmed when Jesus come on in my kitchen. Big wheel is turning for me. I'm ashamed, I shouldn't go to heaven. To plan. I've sent you some conquer roots. So nice you're hidden, you'll be walking down. And here I hold you. I'm new, I am warmed. She's my fritzy chicken. Cooking these kitchens for me. I'm ashamed. I shouldn't go.
Graphite 94.9 FM.
Et c'était The Romani Countess avec Vindaloo sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informés de l'actualité scientifique. Une actualité scientifique qui est très riche depuis la reprise de cette émission début septembre. Carole, nous sommes début novembre et depuis deux mois,
le
nous n'arrêtons
si
pas
ouais.
Parce qu'il y a tellement d'informations foisonnantes sur plein de sujets et c'est vraiment intéressant. De quoi nous parles-tu maintenant ?
Eh bien, j'avais promis tout à l'heure que justement, on allait continuer sur ces nouveaux, enfin, c'est cette actualité là dans l'espace. Et donc, forcément, quand j'ai cité tout à l'heure les projets d'Elon Musk, je ne pouvais m'empêcher. Donc là, c'est plus une actu, hein, et c'est dans Science Post qu'on en parlait donc au mois d'octobre. Donc Elon Musk a encore fait parler de lui, hein. C'est pas la première fois, ce sera pas la dernière.
Ce sera pas la dernière.
Donc qui a fondé SpaceX et il a récemment déclaré, donc c'est une annonce choc, que la société pourrait faire atterrir son vaisseau Starship, et je parlais justement là avec mon histoire de pollution spatiale, hein, de ce projet-là, sur Mars. Donc faire atterrir voilà son vaisseau sur Mars d'ici 3 à 4 ans dans le cadre d'une séance de questions-réponses au Congrès astronautique international en Azerbaïdjan. Donc d'ailleurs, en plus, je savais même pas que ça avait eu lieu en Azerbaïdjan à un moment, j'allais dire, où l'actualité là-bas aussi était assez assez complexe. Mais donc voilà, on est habitué, j'allais dire, à ces annonces et donc il se place toujours comme ça sur un positionnement très très ambitieux. Donc le Congrès international d'astronautique s'est tenue à Bakou en Azerbaïdjan tout au long. Alors c'est parce qu'il y a la, j'allais dire, il y a le comment on appelle ça pour le lancement des fusées, le j'ai plus le nom du lieu.
Pas de tir.
Oui, et pas que, c'est aussi une espèce de base, la base. Ça a un nom. Bon, très bien. Mais oui, il y a le pas de tir, mais pas que. Mais oui, toute la base. Donc ça a une logique. C'est bon, on retrouve ces petits. Tout va bien, je suis rassurée. Donc ça a eu lieu pendant toute la semaine début octobre. Et le président de la Fédération internationale d'astronautique, qui s'appelle Clay Murray, il s'est entretenu pendant une petite heure en visioconférence avec Elon Musk, le patron donc de SpaceX. Au cours de cet entretien, les deux hommes ont abordé plusieurs sujets, dont le projet Martien de la société. Interrogé sur le calendrier d'une première mission non habitée, Elon Musk a répondu qu'une telle mission pourrait potentiellement être réalisable d'ici 4 ans. Donc ça paraît franchement être un délai hyper court. Évidemment, c'est un calendrier qui est ambitieux. C'est pas la première fois en fait qu'Elon Musk fait de telles annonces. Pour rappel, SpaceX avait présenté son vaisseau interplanétaire pour la première fois en 2016, prédisant son premier atterrissage sans équipage sur la planète rouge dès 2022. On ne l'a pas encore vu, mais voilà. À cette époque-là, déjà, le calendrier était très ambitieux. Musk avait ensuite prévu cette première mission sans équipage vers Mars pour 2024, donc il avait décalé, pour ensuite viser une possible mission habitée pour 2026. Donc on est quand même arrivé là en 2023 et le vaisseau Starship n'a effectué qu'un seul vol à moitié réussi. Cependant, cela fait partie évidemment du personnage et si Musk n'était pas aussi ambitieux, SpaceX ne serait probablement pas l'entreprise qu'elle est aujourd'hui. Donc Elon Musk et SpaceX ont en effet de solides antécédents en matière de réalisation de percées remarquables dans le domaine des vols spatiaux. Hein, on rappelle aussi que la société elle a déjà lancé près de 270 fusées dont la plupart sont revenues sur Terre. Rien que cette année, donc en 2023, la société en est déjà à 70 lancements. Plusieurs des boosters Falcon 9 ont également déjà été récupérés plus de 10 ou 15 fois. Parce qu'on se souvient que c'était
oui,
ça aussi l'objectif.
Oui, de
pouvoir réutiliser, récupérer voilà, une partie de la fusée pour en relancer d'autres et que ça puisse du coup être plus facile, moins coûteux, etc. En ce qui concerne le second vol du Starship, SpaceX attend toujours que la Federal Aviation Administration délivre une nouvelle licence de lancement, peut-être dès ce mois-ci. Rappelons que les prototypes Starship 25 et Booster 9 sont installés sur le pad de tir, donc c'était ça, le pad de tir depuis près d'un mois. Elon Musk a également révélé que la version finale du lanceur mettrait 5 minutes maximum pour décoller, placer le Starship en orbite, puis revenir se poser sur Terre. Donc c'est énorme. Enfin, 5 minutes, voilà, hop, placé en orbite, on revient. Le vaisseau mettra de son côté environ 1h30 pour faire le tour de la planète et revenir au sol. Donc il est aussi sur une grosse ambition en termes, j'allais dire, de performance technique. Lors de la conférence, Elon Musk a par ailleurs confirmé certains des changements apportés à la conception évolutive du Starship. Lors de ce nouveau test, les moteurs du deuxième étage s'allumeront avant qu'il ne se sépare du booster. La manœuvre promet d'être plus efficace, mais aussi plus risquée. Et donc on pourra peut-être suivre ça très prochainement, puisque là, voilà, ce deuxième... peut-être que l'autorisation, là, est même en cours d'être validée pour qu'on ait enfin ce deuxième vol du Starship.
Ah ben on aura sûrement la possibilité de suivre ça en direct, hein.
Et bien peut-être. Et peut-être qu'ils le feront un samedi avec le décalage horaire. Ça sera entre 12h et 13h. Mais on l'avait déjà demandé. Hein. On avait déjà parlé d'avoir des horaires.
On y arrivera un jour. Si tu me dis que maintenant, il y a je ne sais pas combien de satellites qui sont envoyés tous les jours, c'est bon.
Oui, alors justement.
On verra bien un le samedi entre 12h.
Comme on parlait en première partie de l'émission de pollution spatiale, pendant la musique, j'ai cherché parce qu'on se demandait les risques du coup de faire redescendre des satellites sur la Terre. Alors, il peut bien y avoir des fragments, même si normalement le risque est assez faible. Si on prend un seul satellite qui redescendrait à la fois, il y a bien quand même, donc la majorité, la plus grande partie du satellite en fait va en effet brûler lors de la descente. D'accord. Mais il y a quand même des fragments et donc on ne peut pas ignorer ce risque de fragments qui chutent. Et en fait, là, je regardais, donc ça date de cet été, où il y a eu une espèce de premier retour assisté, en fait, pour un satellite français, où justement, donc, il y a eu toute une procédure, c'était semi-assisté, c'est-à-dire qu'en fait, on le fait tomber à un endroit précis. Donc là, en l'occurrence, c'était dans l'océan, dans l'Antarctique. Et... dans n'importe quoi,
dans Atlantique.
Voilà. Et que du coup, en fait, on va regarder, déjà essayer de, comment dire, de viser la bonne zone et qu'ensuite, il y a toute une procédure pour en fait pouvoir quand même, j'allais dire, le télécommander un peu et surtout être certain qu'aucun fragment ne viendra toucher une installation humaine ou en tout cas présentera le moindre risque.
Alors si on arrive à télécommander, mais s'il tombe comme ça tout seul, il y a un risque.
C'est
intéressant ça.
C'est ça. Exactement. Et je crois que de toute façon, on n'a pas le droit de. Enfin, il faudrait. Oui, peut-être qu'il y a certains satellites qui peuvent, j'allais dire comme ça, c'est peut-être déjà arrivé. D'ailleurs, ça, j'ai pas eu le temps de chercher encore, qui redescendent de leur orbite tout seul. Mais sinon, c'est pas le cas. Et du coup, on n'a pas le droit de faire n'importe quoi, en gros. C'est un peu ça quand même.
Oui, c'est ça l'idée.
Ouais, c'est ça l'idée.
Bon, très bien. Merci, Carole. On va revenir peut-être un petit peu sur Terre. Tu peux te rapprocher, Carole ? Ah, ah tu as mangé de l'ail ?
Pourtant non, pas à ma connaissance, mais peut-être que...
Alors, je te propose peut-être de manger un yaourt.
D'accord.
Parce qu'on sait que le yaourt, c'est bon pour les os, mais aussi, et c'est bon, et on vient de l'apprendre, contre la mauvaise haleine due à l'ail. C'est vraiment intéressant. C'est scientifiquement prouvé, donc... Donc c'est que c'est vrai, on aime bien manger de l'ail, c'est sympa. Il y a beaucoup de cuisine, notamment méditerranéenne, qui met beaucoup d'ail. Le problème, c'est qu'il y a certaines situations où il vaut mieux s'abstenir de manger de l'ail, hein, notamment lors d'un rendez-vous amoureux, parce que le coupable de cette odeur qui est pas glorieuse se trouve dans les cellules de l'ail. Quand on coupe une gousse d'ail, il y a deux substances qui vont se rencontrer. Il y a d'un côté l'aliine, de l'autre l'aliinase, et ça produit l'apparition d'une troisième substance qui s'appelle l'alicine. Et c'est cette alicine qui est responsable non seulement du parfum caractéristique de l'ail, mais aussi des dérivés qui vont s'échapper et tapisser un petit peu votre palais. Alors, on a tout essayé, du café, du citron, du clou de girofle, de la cannelle. Voilà des décennies que l'on recommande des remèdes pour contrer cette mauvaise haleine. Ça, j'aimais vraiment bien réussi. Eh bien, maintenant, c'est bon, on a trouvé, grâce à des chercheurs américains de l'Université de l'Ohio, et qui auraient donc trouvé la solution. Ils ont publié leurs recherches dans la revue scientifique Molecules.
On connaissait peut-être moins celle-là.
Et c'est quoi la solution, d'après toi ?
Bah, est-ce que tu ne l'aurais pas dit tout à l'heure là,
je l'ai dit.
Donc, bah, manger un yaourt.
C'est bien, ouais. Écouté.
C'était un test pour voir quel est le niveau de ma vigilance.
Ouais. Ils ont repéré le yaourt comme un moyen de neutraliser l'odeur désagréable de l'ail cru. Alors, n'importe quel yaourt. Ce qui marche le mieux, en fait, ce sont les pots de yaourt qui contiennent de la matière grasse. En fait, ce sont les graisses et les protéines embarquées dans le yaourt qui se mélangent en effet aux molécules désagréables de l'ail. Et les scientifiques américains ont ainsi validé le yaourt grec comme étant le remède le plus efficace contre ce type de mauvaise haleine. Alors, il y a une étude un petit peu du même genre qui a été publiée il y a plus d'une dizaine d'années par l'Institute of Food Technologists et qui avait préconisé le lait comme moyen de combattre une mauvaise odeur dans la bouche générée par de l'ail. Mais en fait, plus précisément, ce sont les matières grasses qui sont présentées comme l'antidote efficace, c'est-à-dire qu'il faut utiliser du lait entier, par exemple. Et donc, dans les yaourts, c'est pareil. Il faut quand même essayer d'avoir des yaourts à base de lait entier, c'est meilleur. Comme ça, vous mangez de l'ail, vous mangez ensuite un yaourt grec au lait entier, et après, vous pouvez avoir votre soirée romantique réussie.
Mais écoute, on te remercie pour ces conseils.
Écoutez, si vous êtes en train de nous écouter et en train de déjeuner, vous mangez peut-être de l'ail, et bien allez chercher ensuite un yaourt dans le frigo, ça sera un bon remède.
Très bien. Alors là, ça va être vraiment...
Il n'y a aucune transition.
Il y a des moments
où on n'est pas obligé de faire des transitions.
Oui.
On va dire, mais voilà, information suivante.
Information suivante. Et où on retourne dans la nature, j'avais envie de parler de la chauve-souris. Ce mammifère mal aimé.
Mais oui. Ouais. C'est vrai qu'elle fait peur, hein, chauve-souris.
C'est ça. Bah, c'est vrai qu'elle est... Souvent, alors je suis d'accord, elle déclenche plutôt la crainte. Elle est l'objet de certains films et de tout un imaginaire plutôt anxiogène, alors qu'on l'étudie de plus en plus, et je sais qu'on en a parlé plusieurs fois dans l'émission.
Oui, bien sûr.
Et là, c'est vraiment justement pour un petit peu mieux comprendre ce mammifère.
Et réhabiliter son image.
Exactement, et comprendre pourquoi est-ce que la chauve-souris, elle est vraiment unique en son genre. Et c'est Science Post qui en parlait au mois d'octobre également. La chauve-souris, ce mammifère volant, elle a plein de particularités, elle est fascinante, et bah, du coup, c'est aussi pour ça qu'elle a été choisie comme emblème pour un certain super-héros très connu. Et c'est bien donc le seul mammifère capable de voler. C'est un chiroptère, donc ça vient de chiroptera, dérivé du grec ancien signifiant littéralement main ailée. Et donc maintenant, évidemment, on l'appelle couramment la chauve-souris, et elle fait partie de l'ordre des mammifères placentaires. En plus d'être douée de la capacité de voler, l'animal nocturne est aussi capable d'écholocation, oui, cette technique de communication et de repérage fonctionnant aux ultrasons. Ce chiroptère, donc, je l'ai déjà dit, c'est le seul mammifère capable de voler à distinguer du vol plané hein, que pratique l'écureuil volant par exemple. Là, vraiment, elle vole. Elle se déplace dans les airs grâce à des ailes formées d'une membrane de peau entre le corps, les membres et les doigts. Dans les zones de déforestation, de nombreuses espèces de chiroptères sont en forte régression ou ont complètement disparu. Certaines espèces de chauves-souris font l'objet de plans de restauration ou bénéficient d'un statut de protection, comme en France par exemple. C'est pour ça que là, on met un petit peu en lumière, du coup, voilà, ce mammifère. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la chauve-souris, elle a un squelette adapté au vol actif. Les chauves-souris, ce sont les seuls mammifères capables de voler, avec des ailes qui se composent d'une membrane de peau, donc tendue entre leurs doigts, leur permettant de se mouvoir dans les airs de manière agile et de chasser en plein vol. Le squelette de la chauve-souris s'est en effet adapté au vol, au fur et à mesure de son évolution. Ses os creux et légers facilitent ainsi le déplacement dans les airs. Enfin, les muscles responsables du mouvement des ailes de ce chiroptère sont particulièrement développés. Donc voilà, elle est tout à fait faite et adaptée du coup pour voler. Maintenant, on va parler de l'écholocation. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est souvent connue quand même comme capacité de la chauve-souris. Elle s'en sert en fait pour chasser. Cette technique, également utilisée par certains mammifères marins, consiste à émettre des ultrasons de sorte à détecter les échos des objets environnants pour localiser une proie dans l'obscurité. Elle utilise également des gazouillis qui sont semblables au langage des oiseaux.
Donc c'est mignon.
Bah oui, finalement.
Ça gazouille, la chauve-souris gazouille.
Elle gazouille. Voilà, je ne sais pas d'ailleurs comment de base on appelle le cri de la chauve-souris, ben voilà, le gazouillis. Des scientifiques, en fait, ils ont récemment observé que certaines espèces de chauves-souris peuvent émettre des gazouillements donc semblables à ceux des oiseaux, c'est-à-dire des chants composés de trilles multisyllabiques et de gazouillis suivant un rythme bien spécifique. D'autres chiroptérologues ont pu constater que, justement, ces fameuses chauves-souris chanteuses sont la plupart du temps des chauves-souris mâles polygames. Selon leur hypothèse, ces individus chanteraient à la fois pour attirer les femelles et défendre leur territoire. Finalement, c'est aussi l'usage justement des chants des oiseaux est en effet avec des buts similaires. Alors, elles ont aussi un régime alimentaire qui est particulier, qui est varié, qui peut inclure des insectes, des fruits, du nectar, du pollen, du poisson, voire du sang dans le cas des chauves-souris vampires. Parce qu'en effet, il y a bien cette espèce de chauve-souris. Voilà, c'est donc vrai, mais elle ne va pas sucer le sang humain. Cette variété alimentaire, on observe qu'en fait, elle est unique parmi les mammifères. Et enfin, on a des milliers d'espèces de chauves-souris en fait aux tailles variées. Il existerait à ce jour plus de 1500 espèces de chauves-souris dans le monde, ce qui représente environ 20% de toutes les espèces de mammifères. C'est énorme, hein, 20%. D'ailleurs, donc les chiroptères représenteraient, après les rongeurs, l'ordre le plus important des mammifères. Donc d'abord les rongeurs, ensuite les chauves-souris. La taille des animaux nocturnes varie considérablement, allant des petites chauves-souris tenant dans la paume de la main aux grands spécimens munis d'ailes de plus d'un mètre. Et quand même, c'est assez impressionnant. Ça, celle-là, j'en ai jamais vu de mes propres yeux. La plupart des chauves-souris sont actives la nuit, ce qui les distingue des autres mammifères, généralement actifs le jour. Et d'ailleurs, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la chauve-souris n'est pas aveugle. Il semblerait même qu'elle dispose d'une vue parfaitement adaptée aux conditions nocturnes. Voilà, donc un animal qu'on gagne à connaître mieux. Moi, je sais que quand je les vois voler l'été à proximité, je sais qu'elles sont en train du coup de manger des insectes et donc des moustiques. Je suis ravie de les voir.
Alors, la chauve-souris, elle ne gazouille pas, elle grince.
Ah, c'est ça donc le terme exact.
C'est le grincement.
Grincement. C'est moins esthétique.
Au Moyen-Âge, on était persuadé que cet animal était une sorte d'hybride entre une souris et une chouette, vu qu'elle vole et elle vit surtout la nuit. Et donc, les Romains l'avaient appelée Cava Sorix. Cava, chouette, Sorix, souris. Sauf que... au Moyen-Âge, ils se sont un peu emmêlés les pinceaux et ils n'ont pas dit Cava, mais ils ont dit Calva, donc chauve. Et ça a donné Calva Sorix, chauve-souris. Voilà l'origine de la chauve-souris.
Ah, super intéressant. Ouais. Et donc, il n'a rien à voir en fait avec les vraies caractéristiques de l'espèce.
Exactement.
Mais c'est vrai que du coup, je peux comprendre qu'au départ, en n'ayant pas les informations scientifiques, on ait pensé ça.
Et bien voilà, on en saura plus.
Et puis après, à force de picoler et de faire des dîners bien arrosés, les mots ont été déformés, etc.
Ouais, ouais. On ne dira pas ça de nos amis du Moyen-Âge, mais bon, presque. Je ne sais pas s'il y avait des chauves-souris à Pompéi, mais pendant l'éruption du Vésuve en l'an 79, 1939, eh bien, on en sait un petit peu plus sur la mort des habitants de Pompéi. La première analyse chimique des moulages de Pompéi montre que ceux qui ont cherché à fuir lors de la deuxième phase de l'éruption du Vésuve sont morts asphyxiés, en fait, par un flux de gaz avant d'être recouverts par les cendres. Parce que dans l'imaginaire, on a un peu l'impression qu'ils ont été, ils sont en train de courir et ils sont ensevelis par de la lave comme ça. Et en fait, non, ils sont morts asphyxiés et ensuite recouverts de cendres. Une partie de la population avait déjà succombé lors de la phase principale de l'éruption. La plupart des victimes sont mortes enterrées dans des bâtiments qui se sont effondrés sous une pluie de 3 mètres de pierre ponce. Tu m'étonnes. Et donc, je ne savais pas. Enfin, je n'avais pas imaginé qu'ils étaient morts asphyxiés d'abord.
Oui, c'est vrai.
As-tu visité Pompéi ?
Alors non, mais j'espère y aller prochainement.
C'est fascinant.
Oui, je sais que toi, tu y as été.
C'est extraordinaire, c'est fascinant. Et c'est vraiment, c'est même pas de la reconstitution, on voit la ville telle qu'elle existait quelque part. Enfin, c'est ça qui est vraiment intéressant.
Et donc, ça donne vraiment l'impression, je veux dire, tu te projettes, tu as l'impression que tu y es, que tu revis un peu quelque part ce qui s'est passé.
Tu peux, étant donné que tu as la vue sur le Vésuve, en fait.
Ouais.
Quand tu es à Naples, tu ne vois que le Vésuve, quelque part. Il est là, ça tremble même un petit peu. C'est un peu troublant, d'ailleurs. Mais tu le vois, et effectivement, est-ce que tu te... Je ne sais pas, mais de voir quelques maisons. Alors, cette ville a été pensée. Bon, aujourd'hui, on n'a pas inventé grand-chose depuis. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est l'idée d'avoir ce temps qui est figé.
Oui.
Et tu viens 2000 ans en arrière. C'est ça qui est vraiment intéressant. Avec ce Vésuve qui est là comme une espèce de menace encore présente, en fait. C'est impressionnant. Mais effectivement, j'ai pas le souvenir qu'on nous ait expliqué pendant la visite qu'ils étaient morts asphyxiés, en fait.
Mmh.
Et on a un peu cette image, un petit peu subconsciente de dire qu'ils ont été ensevelis par de la lave et comme ça. Et en fait, non.
Mmh. Ouais, non, ils étaient déjà morts.
C'était une petite brève de science et avenir. On écoute un dernier titre dans cette émission et on continue à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique. Je me rappelle plus de l'article que tu vas évoquer.
Alors après,
ça s'appelle le teasing.
On va parler justement d'une découverte très ancienne qui date, je vous le dirai juste après la musique, mais il s'agit d'un...
Ah, génial. Allez, à tout de suite sur l'antenne de Graphite. We'll be right back.
Graphite, également à l'écoute sur graphite.net.
Vous écoutez Biotine sur l'antenne de Graphite, c'était The Landskies. The Landskies, je ne sais pas. Ça s'appelle Happy Camper, ce titre. C'était très bien.
C'était très bien. Mais comme toutes les musiques, là, du mois d'octobre-novembre, la playlist est super.
La playlist de Graphite est vraiment géniale. Je découvre les titres en même temps que vous, hein, parce qu'on a une playlist, voilà, on pioche dedans un pur hasard. Et donc, voilà, c'était The Landskies, on va dire comme ça. Question, on sait maintenant combien de cellules compte le corps humain. Combien y a de cellules dans le corps humain ? Je vous laisse réfléchir pendant que Carole nous parle de ce sarcophage.
Et oui, une découverte récente en fait d'un sarcophage qui serait vieux de 1800 ans et ça a été découvert en France. Donc c'est pour ça Cocorico, on en parle dans Science Post le 5 octobre. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'une équipe d'archéologues a fouillé une ancienne nécropole à Reims, donc dans le nord-est de la France, et est tombée sur un sarcophage qui datait de l'époque romaine, mais qui n'était pas ouvert. En fait, c'est ça la grande spécificité. Il était intact. Donc, voilà. Après, ils sont en effet penchés sur la question, mais il semblerait que justement ce tombeau contienne les restes d'une femme de la haute société, en tout cas d'une certaine élite, et ils vont évidemment essayer d'en savoir plus. Donc, au IIe siècle, voilà, retour en arrière, imaginons-nous à cette époque-là, hein, il y a 1800 ans, à Reims, qui était connue à l'époque sous le nom de Durocortorum, eh bien, on était en fait dans la capitale de la Gaule belge, l'une des provinces de la Gaule romaine. Cette région comprenait une vaste zone couvrant le nord-est de la Gaule, avec des territoires qui, s'étendant, oui, sur ce qui est aujourd'hui la France, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas et l'ouest de l'Allemagne. Cette grande ville jouait un rôle crucial en tant que centre administratif, économique et culturel de la région. Alors moi, je me suis amusée, j'ai aussi regardé en fait sur internet à quoi ça ressemblait et ça, j'avoue que c'est assez impressionnant. Alors, évidemment, on a perdu de nombreux vestiges romains au fil des siècles, mais Reims possède encore des vestiges de cette époque, tels que des traces de murailles, d'aqueducs et d'autres structures antiques. Récemment, des archéologues ont mené des fouilles dans une ancienne nécropole s'étendant sur 1200 mètres carrés. Il s'agissait de l'une des nombreuses nécropoles qui s'étendaient au-delà des fortifications de la ville et le long de 7 artères principales menant à d'autres métropoles dont Lutèce, donc c'était bien sûr Paris, hein, et Lugdunum, Lyon. Depuis la découverte du premier de ces cimetières dans la seconde moitié du 19e siècle, les archéologues ont fouillé plusieurs milliers de sépultures anciennes à Reims. Cependant, la plupart avaient déjà été pillées, d'où l'intérêt de cette nouvelle découverte, parce qu'on avait tendance à forcément arriver un petit peu après la bataille. Alors, là, il s'agit d'un sarcophage scellé, donc c'est la première tombe non pillée de ce type de découverte dans une ancienne ville gallo-romaine. Et donc, c'est pour ça que Agnès Balmel, qui est la directrice scientifique et technique adjointe de l'INRAP, évoque évidemment dans les différents médias que c'est vraiment exceptionnel. Le tombeau. Et là, je vous invite aussi à aller regarder des photos parce qu'on peut donc en voir hein, sur Internet. Il est en calcaire brut et il était scellé avec 8 fermoirs en fer. Pour avoir un aperçu déjà de ce qu'il y avait à l'intérieur, les chercheurs ont passé donc, ce tombeau au rayon X, puis ils ont inséré une caméra endoscopique à l'intérieur. Ces travaux d'analyse ont finalement révélé la présence d'un squelette féminin et divers objets funéraires, dont 4 lampes à huile, un petit miroir, une bague en ambre et un peigne destiné à accompagner le corps dans l'au-delà. Donc on voit que maintenant, dans la façon d'analyser, etc., on est extrêmement précautionneux. Et là, j'ai l'impression qu'ils en sont déjà aux premières constatations en essayant de ne pas impacter. Enfin, on n'ouvre pas grand le sarcophage en plein air, quoi.
Voilà. Ils savent déjà ce qu'il y a à l'intérieur avant même de l'avoir ouvrir.
Exactement.
C'est pas mal.
Oui. Avec du coup des méthodes comme ça d'études qui permettent, j'imagine, de ne pas dégrader. Parce que j'imagine que le squelette est très fragile. Donc pour l'instant, c'est pour ça qu'on va un petit peu rester sur notre faim et qu'on suivra cette histoire. Ce qu'on sait, c'est que le fait que cette tombe soit aussi imposante, et c'est vrai que ça on le voit bien sur les photos, ça laisse à penser que cette femme, décédée vers l'âge de 40 ans, parce que donc ils ont aussi réussi à estimer à peu près son âge, elle jouissait probablement d'un statut spécial. Ce que les scientifiques aimeraient faire maintenant, en fait, c'est comparer son ADN à d'autres échantillons dans le but de déterminer déterminer si elle appartenait à une élite locale ou étrangère. Voilà, en savoir un petit peu plus sur justement cette mystérieuse femme et essayer de découvrir voilà, d'où elle venait, etc. Et de savoir aussi certainement un petit peu plus qui elle était en tout cas.
Comment ils peuvent savoir ça ?
Ben alors, je pense qu'ils ont déjà en effet d'autres échantillons et j'ai l'air peut-être une banque de données au niveau des autres squelettes qui ont été retrouvés. Ouais. Là, il y a tous les objets aussi qui sont avec elle, mais apparemment, même l'ADN peut permettre du coup de déterminer des choses. Il faudra suivre la suite. Je pense qu'elle aura, là, elle n'a pas l'air d'avoir un nom encore. Il faudra suivre son histoire comme celle d'autres squelettes très connus.
Ok, non, mais on suivra. Oui, je pense que comme c'est en plus c'est en France, donc on aura.
Oui, c'est pour ça qu'on sent la fierté que ce soit en France, ouais, tout à fait.
Oui, mais on aura du coup la possibilité d'avoir peut-être la primeur de l'information. Souhaitons-le. On suivra ça, bien sûr, dans les prochaines émissions de Biotine, bien sûr, sur l'antenne de Graphite. Alors, je vous pose une question et j'attends les réponses. Combien de cellules compte le corps humain ?
Alors moi, vraiment, j'en ai aucune idée. Je pense que le chiffre est énorme.
Oui, mais ça, c'est pas une réponse.
Mais voilà, non, mais du coup,
le chiffre est énorme.
Mais du coup, c'est dur à estimer. Est-ce que tu peux peut-être nous donner un autre indice ?
Alors, je peux vous donner déjà des éléments.
D'accord.
Déjà, on sait que chaque cellule dans le corps humain a une taille spécifique. Et cette taille, elle reste constante, quel que soit l'âge de l'individu. De l'embryon à l'adulte, la taille reste constante. Et il existe une grande diversité de tailles des cellules humaines. Alors, pour avoir une idée, je trouve que c'est assez intéressant comme image. La différence de taille entre nos plus petites cellules, ce sont les globules rouges, et nos plus grandes cellules, ce sont les fibres musculaires, eh bien, tu peux faire une analogie entre une musaraigne et une baleine bleue.
Ah oui.
C'est original, je trouve que c'est intéressant comme image.
Oui, c'est sûr, ça illustre bien.
Ça illustre bien, on ne voyait pas cette différence aussi importante, eh bien si. Donc ça, ça te donne une idée que... Ok, il y a beaucoup de cellules, on est d'accord, mais que chaque cellule a sa taille spécifique qui ne change pas. Et bien évidemment, la taille des cellules reste constante, mais le nombre de cellules, et c'est ça qu'on veut savoir, varie en fonction de la taille d'un individu, bien évidemment.
Ah, donc tu es d'accord. Moi, j'ai moins de cellules, par exemple.
On peut le penser.
D'autres personnes, ok.
Mais combien de cellules avons-nous dans le corps ? C'est quand même la question que je vous pose. Eh bien, des auteurs ont cherché à répondre précisément à cette question. Et leurs travaux ont été publiés dans la revue PNAS, Proceedings of the National Academy of Science. Donc, c'est quand même pas n'importe quelle revue.
En effet.
Ce sont une étude de l'Institut Max Planck. On en parle souvent, l'Institut Max Planck. Et de l'Université McGill aussi, on en parle très souvent. Et c'est eux qui ont travaillé justement sur la composition cellulaire du corps humain. Alors, il y a des recherches qui existent déjà et qui avaient estimé un nombre total de nos cellules entre 30 et 100 000 milliards.
Oui, c'est déjà...
C'est déjà beaucoup, mais ça reste quand même assez approximatif, parce qu'entre 30 000 et 100 000 milliards, bon, ok, on voulait en savoir un petit peu plus, en tout cas avoir un petit peu plus de précision. Eh bien, les auteurs... examiner les données de 1500 sources qui couvrent 400 types de cellules et 60 tissus différents. C'est-à-dire qu'ils ont bien voulu avoir une idée un peu exhaustive et la plus proche possible de la réalité. Réponse. En moyenne, l'homme a 36 000 milliards de cellules. La femme, 28 000 milliards de cellules. L'enfant, 17 000 milliards de cellules. Ça fait beaucoup de zéros quand même.
Oui.
Il y a quand même une différence assez importante, en moyenne bien évidemment, entre l'homme et la femme. Ce qui précise que l'homme, fatalement, c'est quand même beaucoup plus dur pour lui. Parce qu'il a plus de cellules. La femme, elle en a moins, donc c'est quand même plus simple pour elle, non ? Tu n'es pas d'accord ?
Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre ? Ouais, non. Je cherchais
un moyen de te réveiller, parce que je sens que tu as envie de déjeuner, parce que là, il est bientôt
13h.
Et donc, du coup, tu as faim. Et du coup, comment je peux la piquer ? Et là, c'était tellement simple. Alors, on est quand même sur des moyennes, bien évidemment, des chiffres qui sont basés sur des modèles. Ça comporte bien évidemment des incertitudes, mais en tout cas, ça offre un aperçu assez précis de la composition cellulaire du corps humain. Et c'est assez intéressant, notamment en biologie cellulaire. du coup d'avoir des estimations un petit peu plus affinées de ce que l'on avait jusqu'à maintenant. Donc voilà, 36 000 milliards de cellules, c'est le nombre de cellules qu'a l'homme en moyenne et la femme 28 000 milliards. Ça fait quand même beaucoup. Et comme on avait évoqué dans une émission du mois d'octobre, je crois, de tout ce qui était, division cellulaire d'hérédité, on part d'une cellule au départ.
Oui, pour en arriver à ce chiffre, en fait.
36 000 milliards, ouais, ouais. C'est ça qui est quand même fascinant, je trouve, parce qu'au départ, voilà, il n'y a qu'une cellule qui aboutit à ça. Donc, on voit très bien le processus de division cellulaire qui existe, bien évidemment. Donc, tu retiendras ce chiffre ?
Eh bien oui, je le retiendrai. Mais du coup, pareil, je reste aussi un petit peu sur ma faim de pourquoi est-ce qu'il y aurait... Enfin, un enfant, on peut comprendre, mais donc quand même, ça veut dire qu'entre un enfant et son développement à l'âge adulte, il va acquérir quand même un grand nombre de nouvelles cellules.
Bien sûr.
Donc, c'est assez impressionnant.
C'est la croissance, bien sûr. Enfin, ça va être...
Ben oui, mais ça paraît...
Une histoire de taille, une taille du corps. Parce que les cellules vont garder leur taille. Chaque cellule garde sa taille spécifique, mais elles seront plus nombreuses parce que le corps va grandir. Mais là encore, je te dis, l'homme, c'est quand même pas simple pour lui.
Vas-y, enchaîne.
Deux dernières petites informations avant de nous quitter. Des essais conduits sur des macaques rhésus. Pour l'alcool, qui étaient des modèles, pardon, pour l'alcoolisme, je vais y arriver. Ces essais ont montré qu'une forme de thérapie génique induisait une réinitialisation efficace du système de la récompense dans le cerveau. C'est vraiment intéressant, cette idée de thérapie génique contre l'alcool. L'étude a été publiée dans la grande revue Nature Medicine et ça rapporte que la consommation des singes alcooliques avait chuté de plus de 90% par rapport au groupe témoin. C'est l'université d'Oregon aux États-Unis qui rapporte cette étude. C'est vraiment intéressant parce que là,
c'est
bien sûr,
intéressant.
On est sur des essais conduits sur des modèles animaux, mais on voit très bien que ça peut aboutir et à résoudre les problèmes d'addictologie. Je vais y arriver. Enfin, dernière information avant de nous quitter, c'est une étude britannique cette fois de l'université de Collège de Londres qui démontre pour la première fois chez l'animal, là encore on est quand même sur des modèles animaux, mais ça démontre le pouvoir cicatrisant de la caséine. Alors la caséine, c'est la principale protéine qu'on a dans le lait de vache et une réduction de la taille des plaies assez importante de 95%, une réduction de 95% de la taille des plaies était observée dans le groupe qui ont reçu des pansements à base de caséine. Cet ensemble de... cette protéine, c'est bon marché, c'est abondant. Et donc, ça pourrait à terme remplacer, par exemple, les sels d'argent au niveau des cicatrisations. Donc là aussi, c'est sur un modèle animal, bien sûr. Mais les résultats sont vraiment prometteurs. Et c'est deux petites preuves qu'il y avait dans Science et Avenir et que je trouvais intéressant d'évoquer dans cette émission pour finir sur une note comme ça, un peu optimiste. Et dire que les animaux sont, bien sûr, nos amis, nous aident beaucoup.
Eh ben oui, comme, bien sûr, modèle d'étude. Pour comprendre, j'allais dire, comment aussi sont apparus certains comportements chez l'homme. Et bien sûr, évidemment, on teste beaucoup de choses sur eux pour que ça avance dans le domaine de la santé et dans d'autres domaines également.
C'est la fin de cette émission. Merci, Carole, de m'avoir accompagnée aujourd'hui. On retrouve Biotine la semaine prochaine à 12h sur l'antenne de Graphite, le 94.9 sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous suivent sur Internet. Même le 11 novembre, eh bien, moi et mes 36 000 milliards de cellules, nous serons bien derrière le micro pour avoir encore la chance et le bonheur de vous présenter cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Non, toi, tu pars faire un petit peu de danse.
Oui, mais on se retrouve prochainement.
On se retrouve prochainement, j'espère bien, parce qu'on commence à prendre l'habitude. Hein, c'est un petit peu... Ça va être dur la semaine prochaine sans toi, Carole. Ça va être très difficile. Je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve samedi.
Bonne semaine à tous.
Tout de suite, la suite de vos programmes sur Graphite. À bientôt, bonne journée.